D'abord, je voudrais me présenter. Je suis maître de conférence en génétique, plutôt végétale, mais j'ai travaillé aussi sur l'humain. J'ai fait l'université, Paris 11, Paris 7, et par ici, j'ai fait ma thèse. Et après, je suis partie aux États-Unis. Bon, j'ai eu la chance, entre-temps, d'avoir un concours pour être assistante, donc dans l'enseignement supérieur. Je suis partie aux États-Unis, au Texas, pour travailler en biologie humaine. L'idée était de localiser des gènes qui n'avaient pas de fonction, de l'ADN qu'on ne connaissait pas, sur l'humain et l'adapter au végétal. Après, je suis partie à Duke University, qui est sur la côte est aux États-Unis, en Caroline du Nord, où j'ai travaillé sur l'évolution de plantes, notamment chez les alliums, ce qui donne l'ail, l'oignon, etc. Je suis revenue en France, bonjour, et puis j'ai été invitée à repartir en Angleterre dans un laboratoire près de. Enfin, c'était un laboratoire au départ qui était à Cambridge et qui avait été délocalisé dans un endroit superbe à Norwich, sur la côte. C'était bien le week-end, on allait manger du homard. Et parce qu'on avait passé une semaine assez difficile, où on se levait assez tôt et on quittait tard le labo, tellement il y avait de choses à faire et tellement c'était passionnant justement de savoir ce qu'il y avait dans ces chromosomes. Donc voilà, j'ai passé une période à l'étranger et ça, je vous conseille de le faire si vous avez l'occasion dans votre vie. D'aller faire des stages ou bénévoles ou payés dans le cadre de vos études ou pas à l'étranger, c'est très formateur. D'abord, on rencontre des gens de cultures différentes. Vous avez des nouvelles conditions de travail, des relations de travail qui sont différentes, une vie sociale. Je me rappelle aux États-Unis, le vendredi soir, c'était très très précieux. C'était les barbecues et on parle science en même temps qu'on fait chauffer sa côtelette sur le barbecue. C'est très rigolo et on a des relations avec les gens qui sont complètement différents. Donc, c'est une ouverture d'esprit. Et c'est vrai que la science, vous devez le savoir, est assez ardue, assez difficile. Et vous êtes en première et terminale S et c'était mon parcours, donc je comprends. C'est vrai que c'est difficile et en même temps c'est passionnant. On est obligé de passer par des étapes un petit peu ardues, mais c'est absolument nécessaire pour avoir des bases. Et si vous avez une sensibilité pour des questions scientifiques, il faut vraiment oser. Oser les classes prépa, oser la fac, mais oser ce que vous avez envie de faire. Et si dans votre vie, vous voulez faire des parenthèses en disant « Ouais, mais je ne suis pas sûre de ce que je suis en train de faire, il y a aussi ça qui m'intéresse », il faut aussi avoir l'occasion hein, et de la saisir hein, pour faire autre chose. Hein. Donc, ouverture d'esprit, saisir les opportunités, ça fait partie aussi du bagage personnel hein, parce que on construit sa personnalité et puis aussi on construit la société dans laquelle on est et qu'on va laisser aussi aux autres. Donc la génétique, c'est aussi ça, hein. C'est essayer de comprendre l'histoire qu'on a en commun avec nos compatriotes, mais aussi avec des êtres très très inférieurs comme les micro-organismes. Et je vais vous parler d'histoire évolutive. Et c'est aussi la génétique se projeter dans l'avenir, hein. Et on va parler aussi de médecine prédictive et de tests génétiques. Alors j'ai essayé de faire bon, comme c'est une conférence, c'est pas un cours. Mais j'ai essayé quand même de trouver un fil conducteur. Donc, je vais vous parler des dernières découvertes en génétique. Où en est la génétique? C'est quand même ça la question qui est posée. Donc, je vais vous parler du séquençage de l'ADN, que vous connaissez un petit peu. La bioinformatique est assez liée. L'épigénétique, je ne suis pas sûre que vous connaissiez, parce que c'est tout à fait nouveau. Le génie génétique, avec la transgénèse, la biotechnologie, ça, vous devez un petit peu surfer sur ces concepts-là. Et je vais vous parler des applications. Qui sont de deux ordres. D'une part, dans le domaine de l'agriculture, hein, en 2050, on sera 9 milliards de personnes. Donc, 2050, c'est demain. Les agronomes, les généticiens comme nous, on travaille sur les plantes, les animaux, pour pouvoir s'adapter aux conditions de demain. Donc, améliorer les espèces hein, pour un intérêt économique, accroître la productivité. Et puis, évidemment, les adapter à des zones qui sont déficientes en eau ou en engrais. fabriquer des nouveaux produits, et notamment des médicaments. Hein. Vous savez que les plantes peuvent produire, par exemple, des hormones de croissance humaine. Hein. Et puis, dans le domaine de la santé humaine, mais aussi vétérinaire, hein, faut pas oublier non plus les animaux, animaux de compagnie, mais les animaux aussi destinés donc à l'alimentation, pour la thérapeutique, le diagnostic, donc on va parler de médecine prédictive, hein, poser un diagnostic, essayer de prédire hein, si la maladie elle va se développer. Et puis, il y a toute la pharmacogénétique, hein, c'est de pouvoir adapter avec votre profil génétique le médicament pour soulager votre douleur ou vous guérir. D'accord ? Donc, on verra ça tout à l'heure. N'hésitez pas à m'arrêter si il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous êtes perdu ou si vous voulez réagir. Hein. Franchement, n'hésitez pas à m'interrompre, je suis là pour ça. Alors, je ne sais pas si vous êtes habitué à cet arbre de vie. Alors, voilà, on en a fait un arbre. On ne sait pas encore très, très bien l'enraciner. On ne connaît pas quel est l'organisme au départ. Hein. Il y a des hypothèses. Hein. En tout cas, vous voyez, les branches de l'arbre, ça a donné les archées, les eubactéries, les eucaryotes. Hein, et puis, ben, on est dedans hein, avec les animaux, mais aussi les champignons et les plantes. Donc, vous savez que les génomes, ils sont séquencés depuis les années 90, si ça continue. L'année dernière, on a séquencé le génome du maïs. D'ailleurs, il y a une équipe française, on est très, très fiers, qui est dedans. C'est un très, très gros travail. Et ça demande des collaborations internationales. C'est pour ça que la science est internationale. Hein. Nos collègues et amis sont parfois plus proches que nos propres voisins. Hein. C'est clair, et de toute nationalité. Donc, là, pour vous, j'ai été recherchée sur un site internet américain, très sérieux, parce qu'évidemment, sur internet, il y a tout ce qu'on veut, il y a le meilleur et le pire. Donc, nous, on a l'habitude d'aller sur des sites, d'abord, où il y a une date et un nom, pour être sûr que c'est pas des charlatans. Donc là, c'est un site américain du gouvernement, qui est très fiable, qui a recensé tous les génomes qui sont séquencés. Vous voyez, au jour d'aujourd'hui, il y a 5558 génomes entièrement séquencés. Donc, chez les bactéries, il y en a beaucoup, bah, parce que c'est des petits génomes, donc c'est déjà plus simple. Hein. Les archées, les eucaryotes, hein, dont on fait partie, les plasmides, et beaucoup de virus, hein, la plupart sont de ces génomes séquencés sont des virus, parce qu'évidemment, sont parfois plus petits que les bactéries. Alors, pourquoi on arrive à autant séquencer depuis les 10 dernières années? Ça va extrêmement vite. C'est grâce à des machines. Hein. On a des séquenceurs. Donc, vous voyez les couleurs, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a quatre couleurs qui correspondent aux quatre nucléotides qui forment l'ADN. Hein. D'accord? Et là, c'est juste une illustration. C'est un petit locus. Donc, locus, ça vous dit quelque chose? Donc, c'est une petite séquence qui s'appelle un microsatellite. C'est vraiment... très très peu de nucléotides qui sont comme ça alignés. Puis vous voyez bon, les pics A, T, G, C qui apparaissent. Et c'est grâce au séquenceur. Donc vous voyez, le séquenceur, c'est quoi? Alors vous avez un magnifique ordinateur, un écran, et puis la machine que vous voyez complètement à droite, eh bien, elle permet de lire la séquence d'ADN. D'accord? Donc on peut séquencer un génome entier, et on peut séquencer évidemment un gène, ou encore plus petit, un microsatellite qui code a priori pour rien, mais qui est employé, par exemple, les microsatellites en police scientifique. D'accord? Quand vous allez sur le théâtre d'une opération, il y a manifestement un assassinat, on veut savoir qui a tué, c'est pas un suicide. Hein. Bon, peut-être que quelqu'un a laissé une trace de son ADN. Eh bien, on va d'abord savoir si c'est un homme ou une femme, forcément. Mais on va pouvoir savoir si c'est quelqu'un qui a déjà été recensé parce qu'il a commis d'autres délits. D'accord? Donc voilà, les microsatellites sont employés en police scientifique hein, pour pouvoir déterminer, en l'occurrence, une personne qui aurait fait un tel acte. Alors, grâce au séquençage, on est arrivé à, assez récemment, à réfléchir, finalement, c'est quoi un génome minimum? Quel est le plus petit organisme avec le plus petit nombre de gènes pour pouvoir survivre? C'est vrai, c'est une question intéressante parce que, comme je vous ai dit, l'arbre, il n'est pas enraciné. On a des hypothèses sur l'origine de la vie. On pense que la vie vient de l'espace. Hein, d'accord? Elle a été apportée. Et sur Terre, elle a pu se développer, mais sur Terre, quel était l'organisme? Donc on arrive à peu près à entre 250 et 350 gènes, hein, le minimum pour qu'un organisme puisse vivre. Donc je vais vous expliquer le nombre de gènes que nous, on a par rapport à d'autres organismes. Mais ça veut dire derrière que demain, et ça c'est pas non plus un fantasme, hein, ça se passe déjà aux États-Unis dans des laboratoires, mais aussi en Chine, la biologie synthétique, ça sera une nouvelle révolution dans la génétique, c'est de pouvoir concevoir un organisme de toutes pièces à partir, hein, voilà, comme une voiture, hein. Il faut des roues, il faut un moteur, il faut ceci, cela. Quand vous avez bien analysé comment une voiture marche, après vous pouvez la faire. Et bien là, on pourrait faire un nouvel organisme avec 250 à 350 gènes. Et ça, c'est le défi de certains généticiens aux États-Unis. Si ça vous intéresse, je pourrais vous donner les sites. D'accord? Et en France, à Paris notamment, il y a une équipe qui travaille là-dessus. Il y a tout un master d'étudiants, parce que je les ai vus récemment, j'étais leur faire une conférence. Hein. Qui travaillent sur ces questions-là. Donc, si vous voulez un jour faire créer la vie de toute pièce, eh bien, il y a des masters qui existent et qui seront à votre disposition. Alors, moi, j'ai trouvé ça assez amusant d'aller voir les séquences de génomes qui sont très, très différents les uns des autres. Donc, vous voyez le moustique qui, malheureusement, confère la malaria en Afrique, il a. Lui, l'Anopheles, il a été séquencé, donc on va pouvoir peut-être trouver un moyen de ne pas transférer la malaria grâce au séquençage de son génome. Il y a une bactérie qui vit dans la mer à des températures absolument extraordinaires de 95 degrés Celsius, Aquifex, voilà sa tête. Arabidopsis thaliana, qu'on ne présente plus. Vous la connaissez ou pas, cette fleur, hein, cette plante? Alors, j'ai marqué en. The species, c'est l'espèce, hein, modèle pour les généticiens. C'est la plante qui a été la première plante à être séquencée, mais surtout, c'est elle qui a le plus petit génome chez les plantes. Donc, c'est un matériel pour les généticiens absolument extraordinaire. Elle est toute petite. Elle porte le joli nom de Arabette des Dames, et vous en trouvez, hein, si vous cherchez avec des botanistes, vous allez en trouver. J'ai une photo d'ailleurs. Il y en a une un petit peu là, on voit sa fleur, c'est joli, elle est toute blanche. Elle fait partie des Brassicaées, là, si vous êtes botaniste. Donc voilà, vous avez la drosophile, qui est la petite mouche du vinaigre, vous connaissez peut-être de nom, non? Eh bien, l'équivalent chez la plante, c'est Arabidopsis thaliana. Hein, chacun a son modèle. Un autre modèle qui est extrêmement important en génétique, parce que tous ces organismes-là ont fait avancer la science, hein, et donc notre connaissance, la connaissance du monde qui nous entoure et dans lequel on est, et bien sûr sur nous, puisque je vais finir par l'humain tout à l'heure. Cyanurhabditis elegans, alors c'est un ver qui vit dans le sol, dans des climats tempérés, mais il a un corps qui est totalement transparent. Donc ça a permis de poser des tas de questions fondamentales en biologie pour comprendre. Comment il vivait. Homo sapiens, son génome a été séquencé en 2001 par une société privée aux États-Unis, Celera Genomics, qui est dans le Maryland, et puis grâce à un projet international, hein, l'Human Genome Project. Et nous avons 25 000 gènes. D'accord. Je vous présente le riz, Oryza sativa, qui a deux origines, japonaise et en Chine, hein, qui a été séquencé en 2002. Donc ça, c'est extrêmement important pour pouvoir faire après du riz transgénique, améliorer, hein, ces espèces-là. Le chimpanzé, il a été séquencé. On sait qu'il a 98% de gènes communs avec nous. Pour autant, il n'est pas humain et nous, on n'est pas singes. Ce qui diffère de nous, c'est le langage. Nous, on attrape le sida et pas lui. Et ça, on ne comprend pas pourquoi. Certains disent qu'est-ce qui fait l'humain? L'humain rougit par émotion. D'autres disent que c'est un être politique. Comment définir l'humain? Il y a beaucoup de définitions. Vous pouvez en parler avec vos professeurs de philosophie. En tout cas, en génétique, bon, il y a 2% et 2%, c'est énorme. Alors là, c'est rigolo. C'est un microbe qui vit à 3500 mètres. Et c'est pareil que l'autre. Hein, Mais c'est les archées, c'est pas tout à fait pareil que l'autre organe que je vous ai présenté. Il est dit extrémophile, c'est-à-dire qu'il vit dans des conditions extrêmes. Nous, on ne peut pas vivre à 103 degrés, quoi. À 42 degrés, on a du mal, hein. Et ça, on ne sait pas pourquoi. Donc, en séquençant ce genre de génome, on va peut-être pouvoir savoir pourquoi il s'adapte à des températures aussi élevées. Alors, on pourrait après comprendre pourquoi les plantes peuvent vivre dans des conditions extrêmes de sécheresse ou en altitude. Peut-être que pour nous, je sais qu'il y a beaucoup de sportifs ici. Donc, on cherche des capacités, par exemple, chez les cyclistes, quand ils sont en altitude, donc avec un taux d'oxygène moindre, à pouvoir produire un effort aussi intense que s'il était dans une plaine. Donc, il y a une capacité à oxygéner différente. Donc, comprendre tout ça, c'est peut-être aussi comprendre nos capacités adaptatives à des milieux qui peuvent être, en tout cas, extrêmes, en tout cas, différents de la moyenne dans lesquelles on vit d'habitude, quoi. Donc voilà, là encore, là je donne à chaque fois mes sources internet pour toute fiabilité des informations. Alors, jusque dans les années, oui, on peut dire la fin du siècle dernier en gros, hein, on était sur l'idée, la dogme, on appelait ça un dogme, un gène égale une protéine. On a tous appris ça en classe, hein, vous avez le gène et l'ARN messager. Et puis, on s'est rendu compte que c'était un petit peu plus compliqué que ça. Et plus on investigue, hein, grâce au séquençage, grâce à la bioinformatique, on a des puissances de calcul maintenant. Il y a des chercheurs qui travaillent ensemble en permanence, la nuit, le jour, avec les décalages horaires. Il y a des gros, gros ordinateurs qui tournent, hein, ils mettent ça en réseau, parce que ce n'est pas possible d'acheter un gros ordinateur, donc on fait travailler les ordinateurs entre eux, surtout en physique, hein, mais en informatique. De la génétique aussi, on s'aperçoit qu'un gène, il peut contrôler plusieurs protéines. D'accord? Et ça va même un petit peu plus loin, c'est que la vision du génome qu'on a, c'est un réseau de gènes qui va, comment dirais-je, agir sur les autres gènes. C'est-à-dire, vous avez vu le film Avatar ou pas?
Oui.
Bon, moi je l'ai vu, je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouvais ça extraordinaire. Parce que il y a des choses qui sont extraordinaires dans l'idée de communication du signal. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu à la fin. Comment? Voilà, exactement. Et on se rappelle un peu la fin du film où tout communique. Et c'est un peu ça. Si on imagine que chaque avatar est un génome, je simplifie, hein, on pourrait dire que voilà, les génomes communiquent entre eux par des signaux. Mais si on imagine que ces avatars, c'est des gènes dans un génome, notre approche, hein, inframoléculaire, on peut imaginer que voilà, un gène avatar va jouer sur l'expression de l'autre gène avatar. C'est un peu ça le réseau. Et voilà ce que ça donne. On va dire, waouh, c'est absolument extraordinaire, qu'est-ce que c'est que ces couleurs? En fait, je trouve ça assez extraordinaire d'en arriver là. J'ai titré Le génome est une mosaïque de gènes. D'accord? Là, le génome, il est représenté, c'est notre petite fleur, Arabidopsis thaliana, le plus petit génome des plantes supérieures dont je vous ai parlé. Il a 5 chromosomes. Mais grâce à son séquençage, on s'est rendu compte que, je ne sais pas si vous voyez la couleur verte qu'il y a sur le chromosome 3, on le retrouve à plusieurs endroits du chromosome 3, d'accord? Et on le retrouve aussi sur le chromosome 5, d'accord? Donc déjà, il y a une duplication des gènes. C'est le gène, il n'est pas en copie unique, mais il est dupliqué, d'accord? Pourquoi ça, les chercheurs y cherchent. Il y a des hypothèses. Et ce qu'on se rend compte aussi, c'est que, ok, ils sont dupliqués, mais parfois, ils changent d'ordre. Est-ce que l'ordre a une fonction dans l'expression? Ça, c'est une question génétique qui est fascinante. Donc voilà, on a pu reconstruire tout le génome comme ça d'Arabidopsis. Et on se rend compte aussi que les génomes qui apparaissent comme ça différents. Là, je vous ai mis une photo d'un maïs et la photo d'un sorgho. A priori, voilà, ce sont des plantes qu'on consomme pour les graines, pour faire de la farine. C'est des protéines extrêmement importantes. Dans certaines ethnies, le sorgho avec l'oignon sont la base alimentaire. Sans ça, on ne peut pas. Hein, ou le mil. pas développé. Bon, le maïs, c'est un petit peu plus américain d'origine. Et on se rend compte qu'entre le maïs et le sorgho, bah, déjà, il y a des gènes en commun. Et là aussi, ils sont inversés. Donc, ça veut dire qu'il y a, et c'est là où en est la génétique, on arrive à reconstruire. Vous voyez un peu l'image? Bon, ça, c'est pas quelqu'un tout seul qui arrive à faire ça. Hein. C'est des dizaines et des dizaines de chercheurs de différentes générations, différents pays, différentes approches. Donc là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais vous avez donc le maïs qui est à l'extérieur. Hein, c'est le trait qui est là en gris perlé. Vous avez le riz qui est la couche numéro H. Et puis, vous avez le sorgho qui est la couche numéro G. Et c'est pas Roger. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte que les séquences du maïs ressemblent aux séquences du riz qui ressemblent aux séquences du sorgho. Mais du coup, c'est pas dans le même ordre. Donc, ça veut dire qu'il y a un ancêtre commun. Et effectivement, bon là, l'image, elle est en anglais, mais vous faites de l'anglais. C'est sûr que quand on veut faire de la science, plus tard, il faut faire de l'anglais. Donc, commencez à regarder les films en VO, apprenez les chansons par cœur, éventuellement, lisez en anglais des petites, je ne sais pas, des magazines, même si ça n'a pas un rapport avec vos études. Bon, le fait d'enrichir son vocabulaire en anglais, c'est une bonne chose. Et évidemment, si vous pouvez voyager dans les pays anglo-saxons, c'est mieux. Donc, la science, évidemment, est souvent en anglais. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a 20 millions d'années, il y avait un ancêtre qui était commun entre le maïs et le sorgho. Et ça, on le sait parce qu'ils ont des séquences en commun. Et après, ils ont des séquences qui sont totalement différentes du maïs et du sorgho. Et là, on sait dater qu'il y a une séparation, vous voyez, peut-être à 16 millions d'années et peut-être même à 11 millions, il y a eu encore une autre divergence. Donc là, on peut remonter comme ça l'histoire évolutive et peut-être un jour trouver les ancêtres communs à tout l'arbre de vie que je vous ai présenté. Donc vous voyez, ce que ça fait un séquençage d'un génome, de plusieurs génomes, c'est comprendre l'organisation des gènes qui sont en commun avec d'autres organismes. D'accord ? Et je pense qu'on peut imaginer un génome comme une espèce d'océan. D'accord ? De séquences non codantes, et puis il y a des îles dans cet océan qui sont constituées de gènes qui codent pour quelque chose. Et ces îles-là, elles échangent entre elles et elles peuvent échanger des gènes. Moi, c'est ma vision du génome. Mais les choses se sont éclaircies très très récemment avec un concept qu'on appelle épigénétique. Alors, vous allez dire, c'est quoi ce mot-là? Ça a l'air barbare. Bon, en même temps, il ne faut pas avoir peur des mots, il faut essayer de comprendre les mots. Épi, ça fait penser à quoi? Épiphénomène. C'est quoi un épiphénomène? C'est un phénomène un petit peu à part, qui va un petit peu au-delà de. D'accord? Eh bien, l'épigénétique, c'est ça. D'accord? J'ai donné une définition. C'est un ensemble de modifications, d'accord, qui se transmettent d'une génération à l'autre. Et ces modifications, elles vont jouer sur l'expression du gène. Mais sans l'altérer. C'est-à-dire, vous avez toujours la séquence AAATGG, mais elle va subir une modification. Et cette séquence AAATGG, elle va donner autre chose. Alors, je vais vous expliquer ça, hein, parce que c'est un petit peu trop académique ce que je dis. Et ces transformations, c'est une modification de la structure du gène. Et là, l'image que je vous montre, là, vous reconnaissez la double hélice de l'ADN. Et ce que vous voyez en marron, là, vous voyez les petites... c'est la méthylation, d'accord? C'est un groupe méthyle, CH3, qui va se mettre sur la cytosine. Et dès que la cytosine, elle se voit accrocher ce petit groupe méthyle, elle est dite méthylée. Et ça, ça a été révolutionnaire dans la génétique des quelques années qui viennent de se dérouler. Parce qu'on se doutait qu'il y avait quelque chose. On parlait de boîte noire, de black box. On se dit, ouais, bon, ça, c'est pas génétique. Il y a quelque chose qui se passe après les gènes. Mais on n'arrivait pas à mettre un mot là-dessus et on ne savait pas ce que c'était. Et il y avait des médecins qui disaient, c'est quand même bizarre, il y a des gens qui ont des gènes et qui ne développent pas les maladies, il y en a, ils les ont, ils les développent. Il y a un truc. Alors effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines maladies qui n'étaient pas dues à des variations de la séquence, TTT-AGG par exemple, mais qu'il y avait une modification de cette séquence-là. Alors, on a appelé ça épigénétique. Et du coup, ça permet maintenant de cibler des médicaments dans la pharmacogénétique dont je vais vous parler. Mais c'est aussi, ça nous permet de comprendre, enfin pas tout comprendre, qu'en fait, on n'est pas que le pur produit de nos gènes. Il y a d'autres phénomènes qui arrivent. Alors probablement que la vie intra-utérine, quand on est dans le ventre de sa maman, joue sur l'expression de ces gènes-là, notre alimentation, tous les événements qui construisent notre vie, nos accidents, nos peines, tout ça doit probablement jouer. Et puis évidemment, il y a toute l'hygiène de vie. Bon, vous êtes des sportifs, vous ne fumez pas, j'imagine. Vous ne prenez pas de drogue, en tout cas, je l'espère pour vous. En tout cas, c'est évident que, et on va le voir tout à l'heure, que les facteurs environnementaux. Fumer, boire et consommer des produits nocifs, évidemment, vont entacher notre hygiène. Mais ça va plus loin que ça. Probablement, ils jouent un rôle. Et on verra que certains cancers sont clairement une maladie de gènes. On verra qu'il y a des facteurs environnementaux qui vont jouer sur l'expression. Par quel mécanisme, ça, on est en train de les élucider. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on a mis en évidence une corrélation entre cette modification épigénétique et donc la méthylation, donc ce petit groupe méthyle qui se met sur une cytosine, hein, sur un gène donné qui fait apparaître un cancer. C'est indéniable, et donc, bon, voilà, la réaction, pour ceux qui aiment bien la chimie ou la biophysique, voilà la réaction, hein, la cytosine et la méthylcytosine. Alors, comment on a découvert ça? Alors, on a découvert. Il y a eu plusieurs découvertes concomitantes, si je puis dire. Mais là, j'aime bien cette découverte-là parce qu'elle est amusante. Vous voyez les petites souris? Alors, bon, jaune, disons qu'elle a un petit pelage assez clair jusqu'à un pelage assez foncé, type brun. Il y a beaucoup de gènes qui contrôlent la couleur du pelage. Il y en a un qui s'appelle agouti. Vous savez, les généticiens, ils donnent des noms, comme les physiciens donnent des noms à des étoiles. Alors, eux, c'est AY344. Bon, agouti, j'en sais rien. Peut-être que c'était le surnom de petit chat. On ne sait pas. Parfois, c'est assez déroutant. Et parfois, c'est bien trouvé. Du coup, on les mémorise. Mais agouti, je ne sais pas pourquoi, ça a été inventé. Ça se trouve, c'est un étudiant, un thésard dans un labo qui trouvait ça rigolo. Et il y a un gène qui s'appelle AVI pour Agouti Variable Yellow, qui lui n'est pas méthylé. Hein. Donc lui, c'est la forme qui n'est jamais méthylée, il s'appelle comme ça. Donc il agit dans toutes les cellules et la souris, elle est jaune. C'est celle qui est sur la gauche de l'écran. Mais en revanche, il est sensible, on dit qu'il est soumis à une susceptibilité. Le terme exact, c'est susceptibilité. À l'apparition de certains problèmes de santé, et notamment d'obésité. L'obésité est liée au diabète, hein, très souvent, ou le cancer. Alors là, les chercheurs se sont dit que ça c'est extrêmement important, cette découverte, parce qu'on fait un lien entre la méthylation et l'alimentation et le développement de certaines maladies. Et effectivement, ils se sont rendus compte que quand le gène AVI était hyper méthylé, donc là, il y avait ces groupes méthyl sur les cytosines, l'expression, elle s'éteint dans tout le corps de l'animal. D'accord? Et la souris, du coup, elle est brune et elle est en bonne santé. Vous voyez que la méthylation, dans un cas, ça va supprimer une maladie parce qu'on a supprimé l'expression de ce gène. D'accord? Donc, et en fait, ce qui est intéressant dans cette diapositive, c'est que toutes ces petites souris, elles ont le même gène. Simplement, il y en a qui ont le gène méthylé et d'autres, pas du tout. Et elles vont être malades ou pas malades. Pourquoi c'est lié à la couleur du pelage? Peut-être c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les gènes agissent en réseau. Que tel gène, finalement, contrôle la couleur, mais malheureusement, il contrôle aussi l'obésité, voire le cancer. Donc, c'est souvent la raison pour laquelle il y a un cancer et il y a un autre cancer qui se développe. Souvent, vous avez déjà entendu ça. C'est peut-être ça la raison. Alors, je vais passer à un autre aspect de la génétique qui est découvert des deux dernières années. Enfin, c'est le fruit de travail de plusieurs années. Mais disons que ça a été récompensé par... vous connaissez le journal Science ? Nature. Bon, probablement à la fac, quand vous ferez les classes prépa, mais demandez à votre centre de documentation ou allez sur le site de Science de Nature. C'est extrêmement intéressant. Bon, c'est en anglais, certes, mais c'est un anglais scientifique. Donc, bon, avec un vocabulaire... bon, vous avez les dernières nouveautés, les dernières découvertes. Évidemment, toutes sciences confondues. Hein. Il y a Nature Genetics, entre autres, qui concerne uniquement la génétique. Bon, le journal Science donne un prix, si vous voulez, à la découverte de l'année. Et la découverte de l'année en 2008 et 2009, ce sont les cellules souches. Stem cells. Vous en avez entendu parler ou pas? Voilà. Et vous avez dû en entendre parler, soit grâce à vos professeurs, que je remercie au passage, soit vous en avez entendu parler dans la presse, dans les médias, parce qu'il y a la révision des lois de bioéthique. C'est pour ça, non? Pour ceux qui ont dit oui tout à l'heure. Donc la révision de la loi de bioéthique de 2004, elle se fait actuellement, elle va probablement avoir lieu en 2010, où on est en train de discuter, oui ou non, d'utiliser des cellules embryonnaires, donc d'embryons humains, à des fins de recherche. Pourquoi? Parce qu'on a découvert les cellules souches. Donc là, vous voyez une cellule souche embryonnaire humaine. Voilà la tête qu'elle a. Et cette cellule, elle va permettre quelque chose d'assez extraordinaire en médecine, qu'on a toujours essayé de faire, c'est de réparer des tissus endommagés. Quelqu'un, par exemple, qui a eu un accident et il y a une partie de son foie qui a été endommagée, on pourrait le reconstruire, ou un poumon, ou autre chose. Donc la thérapie cellulaire, elle va permettre d'implanter des cellules souches. C'est-à-dire que c'est des cellules toutes neuves, des cellules qui n'ont pas de programme, mais qui, au contact d'autres cellules qui, elles, ont été programmées pour faire un foie, un poumon, vont faire le foie ou le poumon. Et on les a découvertes. Et ça, ça a été révolutionnaire. Parce qu'on se dit, vous imaginez, pour les maladies neurodégénératives, des gens qui sont atteints de la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, bon, plus on va aller en âge, malheureusement, plus on va être susceptible à ces maladies-là. Donc c'est maintenant qu'il faut travailler à des médicaments, à essayer de guérir, et donc peut-être de remplacer ces tissus endommagés. Donc c'est des cellules qui se divisent, hein, d'accord, et qui vont permettre de générer des nouvelles cellules différenciées cette fois-ci, d'accord. Alors, soit on les trouve dans un embryon, mais on en a aussi chez nous, adultes. On les a découvertes, dans la moelle osseuse d'ailleurs. Alors voilà, c'est le développement de l'humain. Donc vous voyez, bon, voilà, l'ovule, etc. Les premiers stades de quand on n'était pas encore un fœtus, hein, encore un embryon, on était constitué de cellules. Totipotentes, ça vous dit quelque chose? C'est des cellules qui sont capables de, à la limite, de se différencier en tout. D'accord? Pluripotentes, ou alors, oui, vous avez dû le voir, puis vous ne vous en rappelez pas, comme ça. Pluripotentes, c'est elles peuvent, mais quand même un petit peu moins. Et plus on avance dans le temps, moins elles ont de capacité à tout refaire. Donc, le blastocyte, vous voyez la tête que ça a, c'est les photos au-dessus, c'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir prélever des cellules embryonnaires. Donc, souche. D'accord. Pour refaire, donc vous voyez, on peut refaire des tas de choses. Hein. On peut faire des neurones, des cellules musculaires, cellules cardiaques, etc. Donc, évidemment, on pourra faire des autogreffes. Hein. On pourra se régénérer comme ça. On en trouve aussi dans le sang du cordon ombilical. Donc, voilà la découverte de l'année. C'est... le chercheur Yamanaka à l'université de Kyoto et le chercheur Thompson aux États-Unis dans le Wisconsin-Madison. Et ils ont fait une découverte majeure. Ils ont fait le chemin inverse à des cellules. Ils ont pris des cellules de la peau, donc voilà, elles sont différenciées, pour leur faire faire chemin inverse, pour qu'elles redeviennent indifférenciées. Ils ont réussi à le faire en ajoutant seulement 4 gènes. Alors, ils ont réussi à déprogrammer des cellules pour après pouvoir les reprogrammer. Ce qu'on appelle les cellules souches pluripotentes induites. Excusez-moi, j'ai oublié un S à pluripotente. C'est les cellules iPS. Et ça, vous allez en entendre parler plus tard dans vos études, si vous faites de la médecine ou de la génétique. Ça va être extrêmement important. Et c'est peut-être grâce à ça qu'on va pouvoir guérir certaines maladies graves qu'on n'arrive pas à guérir. Lié un petit peu à ça, les chercheurs ont toujours voulu avoir donc ces cellules souches à leur disposition pour pouvoir un peu comprendre pourquoi on peut faire un foie, pourquoi on peut faire un poumon. Et pourquoi quand on met un poumon de quelqu'un d'autre dans un corps, il y a un rejet. Il y a le soi et le non-soi. Quelles sont les réactions? Donc les cellules souches, évidemment, embryonnaires, chez l'embryon humain, c'est une source d'information. Seulement, il faut que ces cellules souches proviennent d'un embryon qui soit abandonné, mais dans le sens noble du terme. C'est-à-dire qu'il n'ait plus la progéniture parentale pour être implanté dans l'utérus de la femme qui désirait un enfant. En Angleterre, ils sont allés un petit peu plus loin. Bon, la recherche britannique est très progressiste. Hein. Elle est pro-progrès, si je puis dire. Et en Angleterre, il y a tout un, comment dirais-je, un conseil éthique, hein, une commission éthique qui réfléchit avec les chercheurs aux possibilités ou non de faire telle et telle recherche. Et donc, quand les chercheurs, vous imaginez, qui viennent voir des députés ou les membres d'un conseil en disant, voilà, on aimerait bien faire un hybride homme-animal, je ne sais pas quelle serait votre réaction à vous. Donc, homme-vache, homme-lapin ou homme-cochon. Pouvez-vous dire, quand même, bon, on ne peut pas se descendre à ce niveau-là. Alors, en fait, quelle était l'idée derrière? C'était de créer un embryon humain-animal en insérant de l'ADN humain dans un ovule animal. C'est-à-dire qu'on prend un ovocyte, bon, c'est des mammifères, hein, ils sont comme nous les femmes, ils ont des ovules. Donc on enlève le noyau de cet ovocyte, cet ovule, et on le remplace par un noyau humain. Alors déjà, ça marche ou ça marche pas? Ça veut dire que l'ovocyte, c'est une espèce de, comment dirais-je, de substrat pour que, vous voyez, quand je vous remontre juste un petit instant, vous voyez, ça se développe comme une espèce de petite mûre. Hein, vous appelez ça la mûre morula, le stade morula. En embryologie humaine, vous n'avez pas encore fait? Si vous faites médecine ou ça, vous allez en entendre parler. Morula, c'est mûre, hein, c'est une petite mûre, comme une framboise, si vous voulez. Donc, c'est dans un substrat, vous ne le voyez pas parce qu'on ne le voit pas très bien, mais il y a une pellicule autour, d'accord? Cette enveloppe. L'ovocyte animal, lapin, vache, cochon, servirait à ça. Et ça marche, et ça se développe. Donc, les Anglais ont dit, OK, vous faites vos recherches là-dessus, ça permet de développer donc de l'ADN sans faire vraiment la création d'embryons humains à des fins de recherche. On prend de l'ADN, on le met, bon, on a quand même de l'ADN humain qui se développe en cellules jusqu'au 14e jour. C'est quand même pas mal, 14 jours. Hein? 14 jours de développement. Et on doit s'arrêter à ce moment-là. D'accord? Parce qu'au 14e jour, on fait vraiment on commence à faire un humain, là. C'est-à-dire que si on coupe à ce stade-là en deux, en deçà des 14 jours, vous avez des jumeaux, mais totalement identiques. Au-delà, non. D'accord? Vous ne pouvez pas. Donc, 14 jours, c'est la date limite de ça. Et là, récemment, vous voyez, juillet 2008, on a autorisé homme-cochon. Alors, Vous savez que le cochon est assez proche de l'homme dans l'arbre phylogénétique. Vous avez entendu parler de l'arbre phylogénétique. C'est pas pour rien. Donc, alors c'est très controversé. Hein. Mais en tout cas, c'est une façon de pas créer d'embryon humain ad hoc, exprès pour cette expérience, et de pouvoir continuer à chercher ces cellules souches embryonnaires, parce qu'elles n'ont pas dit leur dernier mot. D'accord ? Derrière, il y a des maladies et puis il y a les organismes à améliorer. Vous voyez, elles sont à 99% humaines, puisqu'il y a quand même des échanges entre cet ovocyte animal, hein, vache, lapin ou bien cochon. Mais l'idée, c'est de pouvoir trouver des remèdes à la mucoviscidose ou la maladie d'Alzheimer, qui sont des déficiences. Donc voilà, l'espèce humaine, dont la barrière était quand même assez infranchissable avec les autres espèces, vient de tomber. Donc, au nom d'un progrès thérapeutique. Donc, on verra si effectivement les cellules souches adultes, et le législateur en France suivait l'actualité en juin, va décider, oui ou non, en France, de continuer à travailler sur les cellules souches embryonnaires. Alors, une autre façon de corriger une maladie humaine, ça pourrait être finalement chez une plante ou chez un animal, en l'occurrence chez un humain, c'est additionner un gène sain. On n'arrive pas encore à faire la substitution, c'est pour ça qu'on dit addition. Bon, vous avez des enfants qui malheureusement, ça dépend du stade de la sévérité de la maladie, qui souffrent d'une maladie, la mucoviscidose. Vous en avez entendu parler ? C'est des patients qui sont déficients en lipase gastrique. C'est une enzyme qui ne marche pas. Elle ne marche pas parce qu'il y a une mutation. Vous voyez, elle est ponctuelle. C'est la delta F508, elle a un joli nom. C'est une phénylalanine, donc un acide aminé, qui manque dans la protéine. Bon, déjà, les généticiens, ils ont trouvé à quoi c'était dû la mucoviscidose. Du coup, on va essayer d'ajouter un gène qui contient bien la phénylalanine en position 508 sur la protéine. Et là, c'est une autre paire de manches, parce que comment introduire le gène ? Alors, j'ai le gène, ok, mais comment je l'introduis ? Oui, donc on va, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de trouver un vecteur pour rentrer, d'accord ? Donc, on prend souvent un vecteur virus. Les virus, lui, il arrive bien à rentrer chez nous, dans notre génome. Donc, on se dit, tiens, un peu comme les militaires, on va, hein, c'est comme dans l'art, l'art guerrier, on va essayer de s'introduire en feintant l'ennemi, d'accord ? Donc, on prend la capacité du virus à s'introduire, sauf que le virus, on l'a rendu justement pas virulent, on a enlevé tout ce qui était virulent chez lui, mais on utilise sa machinerie pour, ok, tu rentres, et tu rentres dans la cellule, et tu vas déposer le gène, et après, tu meurs. Et on arrive à faire ça. C'est encore des essais, donc on parle d'essais pour l'instant. Mais la thérapie génique, ça va permettre de corriger un gène qui est malsain, d'accord ? Comme la thérapie cellulaire, c'était de réparer un tissu, là, on peut corriger un gène, d'accord ? Il y a une hiérarchie. Mais on arrive comme ça, grâce au séquençage du virus, savoir qu'est-ce qui est virulent chez lui, qu'est-ce qui fait qu'il arrive à pénétrer n'importe quelle cellule, et à utiliser la machinerie des cellules qui sont dans le corps. Alors, évidemment, l'étape suivante avec le séquençage, c'est qu'on connaît les maladies, mais on aimerait bien pouvoir les prévoir. Alors, la médecine prédictive, comme son nom l'indique, c'est une médecine qui va prévoir et prévenir, mais un risque de maladie, c'est un risque, c'est pas sûr que vous l'ayez, sauf certaines maladies où là, malheureusement, quand le diagnostic est posé, c'est sûr que vous l'avez. Donc, il y a deux grands tests génétiques, ce qu'on appelle le test qui est réalisé pour un diagnostic présymptomatique, c'est pas du jargon, hein, c'est du jargon médical, mais qui est très précis, c'est comme le droit, hein, le vocabulaire juridique. Il est très précis. Diagnostic présymptomatique, c'est avant les symptômes. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore exprimé la maladie. Donc là, on peut envisager un test parce qu'on sait que, bon, voilà, dans la famille, il y a des gens qui ont eu ces maladies-là. Donc vous l'avez, vous l'exprimez pas encore, mais il y a de fortes probabilités que vous, effectivement, soyez exposé à l'expression. Après, il y a des diagnostics de prédisposition. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est comme je vous disais tout à l'heure. Il y a des maladies dites multifactorielles. C'est-à-dire, il y a des facteurs génétiques, prédisposition génétique, et puis il y a des facteurs qui sont liés à l'environnement. C'est votre environnement dans la vie intra-utérine, tout votre parcours personnel et votre hygiène de vie. Ça, c'est certain. Alors là, je ne vais pas vous faire un cours de génétique. Hein. Simplement, vous vous rappelez quand vous avez une mutation, alors autosome, ça veut dire que ce n'est pas sur le chromosome sexuel, à hérédité et récessive. C'est-à-dire que là, vous avez les deux, d'accord, les deux allèles qui sont présents. Par exemple, l'individu qui a la mucoviscidose, c'est quelqu'un qui porte les deux versions du gène muté. Donc effectivement, on peut détecter la mucoviscidose chez un enfant. D'accord ? Alors, si les parents ils sont porteurs d'une mutation, évidemment, l'enfant, il y a un enfant sur quatre qui va avoir la maladie. D'accord ? Et ça, on peut effectivement le prédire. Alors ça, c'est une autre maladie qu'on a découvert récemment. C'est une forme très particulière de mutation qu'on appelle dynamique. C'est-à-dire, alors là, c'est très curieux. C'est une maladie où, vous voyez, il y a une amplification d'un triplet. Bon, ici, AAT. Et il se répète, AAT, AAT, AAT. Seulement, le problème, c'est que de génération en génération, et ça, on ne sait pas pourquoi, c'est l'ADN qui déraille, d'accord ? On dit même qu'il bégaye. Il rajoute des triplets à chaque fois. Et de génération en génération, les triplets augmentent. Et malheureusement, la maladie devient de plus en plus sévère. C'est des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Huntington. Et quand on vous dit, voilà, vous avez ça, malheureusement, on ne peut rien faire. Ça ne va que s'accélérer. Alors, vous voyez que les tests génétiques, ils ne vont pas prédire l'âge auquel vous allez développer la maladie, ni la gravité. On peut, a priori, donner des pourcentages. Alors, effectivement, sur Internet, c'est un peu bienvenu à Gattaca. Parce que sur Internet, maintenant, vous pouvez avoir des tests génétiques à votre disposition. Alors, je suis allée les voir, ces sites-là. Disons qu'il y en a pas mal. Hein. C'est des sociétés qui sont basées sur le web. Hein. Pour 100 dollars, on peut vous faire le scan d'un seul gène. Et puis, vous voyez, pour 350 000 dollars, pour un génome entier. Et vous avez des sociétés américaines. Et d'ailleurs, l'une des sociétés, elle a été fondée par la femme qui a fondé Google. Donc, on vous dit, en fait, on vous traite de client, hein, consumer. Hein, vous n'êtes pas un patient, vous êtes un consommateur. Vous pouvez envoyer un petit kit avec votre salive à la société américaine et qui vous fait le scan que vous voulez. Seulement, le problème, c'est que vous n'avez pas de conseil génétique. Et on vous dit, ben voilà, vous avez une prédisposition à telle et telle maladie. Alors, je vais vous la donner en anglais parce que j'ai fait des captures d'écran. Bon, c'est pas très difficile. Hein. Donc, vous voyez, là, d'abord, on collecte la salive. Hein. Donc, on peut prendre un petit peu de sang aussi. Souvent, c'est dans la joue qu'on prélève. Hein. Et puis, voilà les différentes sociétés. 23andMe, c'est 23 paires de chromosomes, hein, et moi. Il y a Decode, qui est en Islande. Hein. Il y a aussi Consumer Genetics. Donc, la femme du fondateur de Google, c'est 23andMe, hein, c'est sa société à elle. Mais allez voir, hein, c'est assez intéressant. Hein. Donc là, voilà tous les tests qui sont offerts. Donc, voulait savoir si vous avez une prédisposition pour le cancer du sein. C'est charmant. On vous dit, oui, vous en avez une. Dit, ça y est, vous êtes affolé. Vous dites, mais je vais avoir le cancer du sein. Alors qu'en fait, il y a certaines formes de cancer du sein. Il y a des prédispositions génétiques. Vous pouvez avoir les mauvaises allèles, mais pour autant, vous n'allez pas avoir le cancer. D'autres, effectivement, vous allez l'avoir. Ça dépend de votre histoire familiale. Et puis, il y a justement toute l'épigénétique derrière. Il y a des facteurs multifactoriels. Bon. Alors, vous voyez, ces sociétés-là qui sont quand même de l'argent. Mais surtout, ce n'est pas tellement ça que je trouve choquant. Bon. Ce que je trouve choquant, c'est la question éthique qu'il y a derrière, c'est-à-dire de ne pas accompagner le patient, que la personne va croire que son destin génétique, il est dans un test comme ça, alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et que, en plus, en tout cas en France, ces tests-là, ils sont interdits. Les tests génétiques qui sont commandés par les médecins, c'est dans le but de faire de la recherche. Par exemple, on avait dit les embryons humains, s'ils sont prédisposés à une maladie rare ou une maladie d'une sévérité importante, on peut effectivement faire un test. Dans le cadre d'une thérapie, parce que il y a une histoire familiale, on veut savoir si le petit frère, la petite sœur... ou si le conjoint, vous avez une chance sur quatre d'avoir un enfant qui aura telle maladie, bon, il faut quand même peut-être le dire aux parents. Et puis, dans la police scientifique. Voilà. Mais de vous-même, il faut faire très attention quand vous allez sur ces sites-là, parce que vous allez être dépourvu de conseils et être un petit peu affolé. Donc moi, je suis allée sur les forums de discussion. Et j'étais assez étonnée de voir des gens qui disaient « Ah ben... j'ai fait le test, donc c'était des Françaises, c'était en français. J'ai fait le test, c'est extraordinaire parce que j'ai pas du tout de prédisposition à l'alcoolisme. L'air de dire, c'est bon, je peux boire, et puis je serai jamais alcoolique. C'est quand même plus compliqué que ça. Et puis il y a un certain nombre de choses que vous voyez apparaître, comme par exemple des groupes sociaux. Bon, sur Facebook, il y a des groupes sociaux. Des réseaux sociaux qui se créent, eh bien, c'est un petit peu la même idée. C'est-à-dire que ces sites-là, je crois que c'est Consumer Genetics qui propose ça, c'est-à-dire que toutes les informations génétiques, vous les déposez sur le web. Donc, vous faites partie d'un club. Et il y a des gens qui se créent des affinités. Ah oui, alors toi, t'as pas de cancer du côlon ? Ah ben moi, c'est pareil. Bon, on se met sur Facebook ensemble, on forme un groupe. Et là, ils forment des groupes génétiques, des affinités, ils se trouvent des identités génétiques. C'est un peu, c'est qu'on peut partager autre chose que nos propres gènes, mais il faut, voilà, ça existe. Mais ça va même plus loin que ça. C'est que, vous savez que aux États-Unis, on vend son sperme pour se faire de l'argent quand on est étudiant. Aux États-Unis, comment ? Les ovules aussi. Et on fait des ponctions, tout à fait. Bon, aux États-Unis, les facs, c'est pas comme en France. Bon, je sais bien que les frais d'inscription sont un petit peu élevés en France, mais c'est incomparable par rapport aux facs américaines. Donc, les étudiants travaillent. Ils travaillent tout le temps. Moi, je suis allée aux États-Unis récemment donner des cours à des Américains et Américaines. Et les étudiants que j'avais le matin, je les retrouvais le soir dans le grand magasin. Ils rangeaient les vêtements, quoi. Donc, ils dorment très peu, ils n'ont pas de vacances, ils travaillent pour avoir l'argent pour pouvoir payer leurs études. Et du coup, ils sont très respectueux des études parce que c'est leur façon d'abord de s'élever dans la société. Et puis, ils savent le sens des études parce que quand on les paye, Et donc, certains hommes étudiants, ils vendent leur sperme. En France, c'est strictement interdit. Vous donnez votre sang, vous donnez votre sperme, c'est gratuit et c'est anonyme. Et c'est les piliers fondamentaux de notre éthique. Et puis, évidemment, c'est basé sur le consentement. On ne va pas vous forcer à donner votre sang. Vous donnez si vous en avez envie. Donc, on vend du sperme. Bon. Donc, il y a des gens qui sont nés de fécondation in vitro. Donc, ils ne connaissent pas leur père. Et avec ces réseaux sociaux, ces sites, ils arrivent petit à petit... à retrouver comment Voilà leur famille, tout à fait. C'est le demi-frère ou le demi-sœur. Évidemment, ils ont des gènes en commun. Alors, bien sûr, il y a d'autres indices. Vous voyez, c'est comme une espèce de... C'est Sherlock Holmes. C'est normal de se poser la question d'où je viens. Bon. En fait, ils le savent parce que souvent, la mère, elle a accouché dans l'hôpital qui a donné... Enfin, qui a permis la fécondation in vitro. Donc, ils savent tous qu'ils sont nés à peu près dans la même période, dans le même hôpital. Donc, il y a de fortes chances que le vendeur de, enfin, le père génétique soit le même. Et donc, de fil en aiguille, ils arrivent à retrouver justement leur famille. Donc, ça peut poser certains problèmes parce que celui qui l'a fait pour l'anonymat, peut-être ne sera plus anonyme. Donc, il se peut que plus tard, ça pose des problèmes de plus pouvoir vendre ou donner son sperme si on sait qu'un jour, dring, je suis ta fille ou je suis ton fils. Je ne sais pas comment vous réagiriez, mais... Alors voilà, ça c'est une capture d'écran, 23andMe, qui vous indique, voilà, choisis ton test qui va bien pour toi, hein, qui te correspond. Donc, on peut cliquer. Buy now, hein, je suis sur eBay, hein, c'est pareil. Je m'achète ma machine à laver, j'achète mon test. Et puis, il y a le prix en dollars, hein, 499 dollars. Donc, on vous dit exactement ce qui. Les, voilà, ce qui est le, voilà les sujets les plus populaires que les gens demandent, le diabète, psoriasis, le cancer du sein, cancer colorectal, prostate, etc. Bon, je suis allée voir sur le O Science, Read or Open Letter, et c'est quand même très bien. Ça, c'est quand même très, très bien référencé. Vous voyez, c'est quand même mis à jour. Là, c'était, je ne sais pas quand est-ce que je l'ai fait, il y a assez récemment. Bon, ils ont des nouvelles, vous voyez, novembre, 19 novembre 2009, etc. Donc, voilà, prudence par rapport à ces tests-là. Hein. Donc, l'administration d'Obama est en train de réfléchir à comment contrôler ça, parce que peut y avoir la supercherie, il peut y avoir des tricheurs. On vous dit c'est un test, et mettons que c'est pas, ils se sont trompés. On vous envoie un test, c'est pas vous. Vous apprenez que vous avez le cancer du sein quand vous êtes une femme ou la prostate quand vous êtes un homme, mais en fait, c'était pas vous. Quel est votre cours? Vous êtes sûr de ça? Vous êtes sûr que c'est moi? Donc, le gouvernement américain est en train de réfléchir à comment surveiller ça et puis de pouvoir encadrer. Alors, en conclusion, parce que le temps passe vite, on va de plus en plus utiliser évidemment le génie génétique hein, lié au séquençage. Bon, on va créer des variétés animales génétiquement modifiées, soit pour produire des protéines humaines dont on a besoin, des vaccins, par exemple, donc des produits pharmaceutiques, soit des composés importants dans le lait. Dans l'agriculture, au niveau végétal, on va évidemment faire des biotechnologies vertes avec des organismes génétiquement modifiés, des plantes transgéniques, pour lutter contre des maladies, hein, contre des attaques de prédateurs, qui seraient liées d'ailleurs au réchauffement climatique. Des plantes qui vont utiliser moins d'eau, moins d'engrais, donc moins polluantes, hein, et aussi pour l'alimentation, puisque là, on vient de créer aux États-Unis un soja qui sera enrichi en oméga-3, donc on va pouvoir très bientôt avoir de l'huile enrichie en oméga-3, qui est bon pour nous protéger des risques cardiovasculaires, parce qu'on a trouvé 6 gènes dans le phytoplancton qu'on a introduit dans le soja pour modifier son acide gras, hein, la DHA que vous connaissez, docoxyanoïque acide. Pour dépolluer les sols qui ont été voilà, pollués par des métaux ou une marée noire. D'ailleurs, il y a pas mal de recherches qui sont sur le peuplier hein, pour décontaminer des sols qui ont été contaminés par des déchets dangereux. Et puis évidemment, vous voyez, là, c'est une puce à ADN, hein, c'est des petits carrés avec des centaines de petits puits dans lesquels on dépose de l'ADN et on fait exprimer des protéines. Donc, Ça permet de faire des cartes génétiques. Hein, donc là, on va pouvoir produire des nouveaux traitements. Hein, on va fabriquer des vaccins, des protéines qui recombinent entre elles, hein, animal, humain, des anticorps, la thérapie cellulaire dont je vous ai parlé, la thérapie génique, mais justement, peut-être sans utiliser un virus, peut-être d'autres vecteurs qu'on est en train de chercher. Qui aille vraiment déposer le gène en question. On va pouvoir diagnostiquer et comprendre les causes de nos maladies grâce à ça. Et peut-être bien différencier hein, la part de l'environnement sur l'expression de nos gènes. Et c'est évident qu'à un rythme très très accéléré, hein, on va pouvoir concevoir des essais hein, cliniques, des pratiques de prescription. Hein, très profilé sur soi. Hein. Chaque individu aura pratiquement sa prescription qui sera vraiment adaptée à son profil génétique. Voilà en 45 minutes les dernières nouvelles du monde de la génétique. Et j'attends vos questions. Merci.